lorsque t'entendais parler au village, brave homme à la tête dure comme ton sabot, de l'action directe et du sabotage, tu restes vitré comme un escargot, calme paysan des côtes ou tranquille, au fond de ta jugeote, tu pensais comme ça, c'est des inventions des gars de la ville, et moi je ne peux pas comprendre ces choses-là, et moi je ne peux pas comprendre ces choses-là. Si les exploiteurs qui pressurent tes frères, pauvres ouvriers, pauvres citadins, font le geste d'abattre leurs griffes sur ta terre, ta vieille compre noire se réveille soudain, paysan tes pas, si bête qu'on suppose, ni que tu veux le faire croire, sacré nom de glas, si ton intérêt se trouve mis en cause, t'as rudement vite fait comprendre ces choses-là, t'as rudement vite fait comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe dans la Marne, d'après les dernières nouvelles des journaux. Au sac des celliers, la foule s'acharne, brisant les bouteilles, crevant les tonneaux. Les ruisseaux débordent de flots de champagne, et les vignes avec leurs grands échalas sont comme des bûchers au cœur des campagnes. Ah oui, t'as grandement compris ces choses-là. Ah oui, t'as grandement compris ces choses-là. Esclaves des usines, esclaves de la terre, les vœux de nos cœurs sont les mêmes vœux. Tous deux nous souffrons de la même misère, nous avons le même ennemi tous deux. Paysans, mon vieux, allons que t'ensemble pour la grande lutte qui bientôt viendra. Donnons-nous la main et marchons ensemble. À présent que t'as compris ces choses-là, à présent que t'as compris ces choses-là. Paysans, mon vieux, allons que t'ensemble pour la grande lutte qui bientôt viendra. Donnons-nous la main et marchons ensemble. À présent que t'as compris ces choses-là, à présent que t'as compris ces choses-là.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni nationalité, pour une nouvelle émission de « Et pourtant, elle existe cette littérature », une émission qui est consacrée à la littérature prolétarienne et animée par des personnes qui sont membres du CLOP, Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, et aujourd'hui donc dans le studio, Michel et moi-même, Raphaël. Alors, nous avons entamé par une chanson dont les paroles sont de Gaston Coutet, et ce n'est pas par hasard, puisque nous allons consacrer une partie importante de l'émission à ce poète paysan. Et l'extrait que nous avons écouté, Ces choses-là, donc texte de Gaston Coutet, provient d'un CD... d'une série qui s'appelle Poètes et chansons, collection Marc Robin. Marc Robin d'ailleurs qui a fait aussi un 33 tours avec les chansons de Gaston Coutet et qui était interprété par Claude Antonini. Donc nous allons revenir bientôt sur Gaston Coutet avec Paul Masson qui devait être dans le studio mais qui du fait des il avait deux trains importants à à prendre, puisqu'il réside à Arras. Et ensuite, il devait descendre. Donc, c'était un peu risqué avec les perturbations qu'il y a sur certaines lignes SNCF aujourd'hui. Donc, nous aurons, d'ici quelques instants, une liaison téléphonique avec lui. Alors, pas pour deux ouvrages, d'ailleurs, qui le concernent. Les deux sont publiés aux éditions du Petit Pavé. C'est Chemin et Mémoire, hein, dont nous allons revenir également, qui retrace l'itinéraire de Paul Masson, né dans la région de Saint-Étienne, et où il vivra longtemps, et ensuite dans la région de Lens et d'Arras, où il est aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu un parcours d'une personne qui vient du monde ouvrier, etc. Et nous allons un peu l'interroger sur cet itinéraire et sur le livre qui est vraiment intéressant, qu'il a consacré à Gaston Coutet, hein, et qui s'intitule « Sur les pas de Gaston Coutet, poète libertaire, 1880-1911, aux éditions du Petit Pavé ». Ensuite, nous verrons avec Michel pour avoir un petit point sur les expositions, hein, sur la question de l'art. On a déjà abordé la question de l'art brut. Et là, ça tombe très bien, puisque Michel va nous parler de la fabuloserie.
C'est ça.
Et c'est ça, on est d'accord.
C'est ça, tout à fait.
Et on a justement un de nos adhérents qui nous a demandé d'en parler en même temps. Donc ça, c'est intéressant. Et enfin, nous terminerons par un certain nombre d'ouvrages que nous recommandons, qui viennent de sortir et qui s'inscrivent tout à fait dans la problématique de notre intervention consacrée à la littérature qui vient d'en bas. Voilà. Alors, je vois si on peut faire la jonction avec Paul Masson. Hein, donc, je récapitule un peu les écrits. Hein. Oui. Les écrits, donc Chemin et Mémoire, édition du Petit Pavé, hein, c'est un ouvrage un peu plus ancien, et celui sur Gaston Coutet. Hein. Vraiment un travail sur Gaston Coutet, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment un ouvrage que je recommande parce qu'on a, y a un travail qui a duré 2 ans et qui est vraiment documenté. Et je crois qu'on va pouvoir faire la jonction avec Paul Masson, que nous avons en ligne. C'est OK ?
Frédéric, oui. C'est Frédéric qui fait la liaison.
Frédéric, en fait. Ah oui, j'ai oublié de dire, bien sûr, comme d'habitude, Frédéric est à la technique, Frédéric du groupe La Commune de Paris. Donc, c'est un groupe de la Fédération d'Archives de la Commune de Paris. C'est bon ? Paul, tu m'entends ?
Oui.
Alors voilà, donc on va commencer notre entretien. D'abord, merci d'être à l'heure et d'exact au rendez-vous. Donc, on va commencer à parler un peu de ton itinéraire. Est-ce que tu peux nous situer un peu tes origines, en gros, de où tu viens, dans la région de Saint-Étienne et des monts du Forez?
Oui. Alors, bon, je suis né dans la vallée de l'Ondaine. C'est à côté de Saint-Étienne. C'est une vallée qui touche Saint-Étienne. Et une vallée ouvrière. Ancienne, puisque au niveau de l'acier, déjà les armes étaient faites liées à la qualité de l'eau. Il y a aussi le textile. Et puis alors au 19e siècle, c'est la mine qui va prendre le plus de l'importance. Hein. Peut-être. On est en direct ou pas ?
Oui, oui, nous sommes en direct, hein, donc tu peux peut-être nous parler de ton milieu familial, par exemple ?
Ok. Alors, oui, le milieu familial, donc, ça va être une famille ouvrière. Mais la vallée de l'Ondaine est marquée par l'immigration ouvrière, et j'allais dire sur mes quatre grands-parents, tous sont des immigrés de la campagne environnante. Et à la fin du 19e siècle, quelque chose qui se passe à plusieurs endroits, les campagnes pauvres se vident pour les villes, et mon grand-père va descendre à Saint-Étienne à la Ricamari pour comme mineur de fond. Il va se marier avec une femme aussi de l'origine campagnarde et qui, elle, sera clapeuse. Alors, clapeuse, c'est un mot à Saint-Étienne, c'était les femmes qui triaient le charbon quand ils arrivaient. Mon autre grand-père, lui, il va travailler lié à la mine. Il n'était pas mineur de fond, mais il travaillait au gazo. Le gazo, c'était des fours où le charbon était transformé en coke. Et ma quatrième, ma deuxième grand-mère, elle était descendue à Saint-Étienne. Elle venait de plus loin, puisqu'elle c'était d'Ardèche, pour faire bonne chez les bourgeois, comme beaucoup de filles de campagne. Voilà. Donc, ce contexte-là, c'est le contexte dans lequel vivent mes grands-parents. Mon père est ouvrier. Il sort de l'école avec un CAP de menuisier. Donc, sa carrière professionnelle a changé 13 fois d'employeur. Mais sa carrière, ça va être ça, il va être menuisier, et puis couvreur, et puis coffreur. Puis après, il a eu la possibilité de rentrer à Creusot-Loire. Creusot-Loire, c'est la métallurgie à Saint-Étienne, à l'usine du Marais. Donc il va y aller, et les dernières années de sa vie, il va être concierge dans une copropriété. Et là, pendant ce temps-là, ma mère va travailler un quart de temps, parce que la copropriété, il fallait plus qu'un temps plein. Cet aspect-là, les 13 emplois, par exemple, mon père m'a toujours dit, j'ai cherché à trouver quelque chose qui me payait un petit peu plus que le précédent, sauf pour la conciergerie. Parce que quand il travaillait à Creusot-Loire, au Marais, il était au sous-sol du train finisseur, c'était un travail très pénible, très salissant, et il faisait les 3-8. Et il s'est rendu compte, quand il avait une cinquantaine d'années, qu'il ne pourrait pas tenir jusqu'à la retraite. Donc il a cherché un boulot, et il a trouvé une petite copropriété où il était concierge, quoi. Il faisait les poubelles, Mais là, il va avoir une perte de revenus parce que il n'aurait pas pu tenir jusque-là. Je repense par rapport à la bataille pour les retraites. Mon père a travaillé jusqu'à 60 ans, mais les dernières années, régulièrement, le dos était bloqué. Bon. Voilà, ma mère, c'est ce qu'on appelle... qu'on disait, c'était une femme à la maison. Alors, son travail, c'était le travail des femmes à l'époque. Fallait tenir la maison, fallait faire les courses, fallait faire la cuisine, fallait faire la lessive, fallait faire l'éducation des enfants, les mener à l'école. Et l'aspect de tenir le budget, je crois que ça, c'était quelque chose qui était très important. Et mon père est en admiration devant sa femme pour cet aspect-là. Ma mère avait le souci et à 90 ans, je suis allé faire des courses avec elle. Elle sortait du supermarché, elle regardait son ticket et avant de sortir complètement, elle s'assurait que tous les prix étaient justes, quoi. Cet aspect, tenir un budget dans une famille ouvrière, c'était pas évident à l'époque.
Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, si j'ai bien lu ton livre Chemin et mémoire, c'est un milieu ouvrier, mais en même temps, de leur part, il y a une ouverture et un engagement social.
Voilà. Alors, mes parents se sont connus par la JEC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Et toute leur vie ont été une vie d'engagement ouvrier et chrétien. Les deux étaient tenus. L'aspect participer au combat ouvrier, pour eux, c'était évident. Je me rappelle, c'est presque... C'est, une anecdote, mais je crois qu'elle est, elle est très intéressante à voir. Pendant la grève des mineurs à Saint-Étienne, j'étais enfant, je pense c'est dans les années 50, je ne saurais pas dire, une famille de mineurs qui était en grève, donc qui n'avait pas de revenus, deux ou trois fois pendant la grève des mineurs, des familles sont venues manger à la maison. Parce que s'ils mangeaient à la maison, ils n'avaient pas besoin d'acheter de la nourriture pour ça. Ça faisait partie, pour mes parents, c'était évident que soutenir les mineurs en grève, ça passait par là. Mon père était syndicaliste, il était à Force ouvrière, lui. Il était syndicaliste dès le départ. C'était un petit peu lié à son engagement de la JOC, un engagement chrétien. De la JOC passait par l'action syndicale, évidemment. Et ma mère, elle était investie dans les mouvements familiaux. Une association qui s'appelait l'APF, Association Populaire Familiale. Donc c'était des associations qui avaient une vie de quartier. Et sur le quartier, il y avait des services qui étaient organisés pour les familles ouvrières. Dans le livre, je mentionne deux illustrations. La machine à laver. Donc, pour se resituer, on est dans les années 50. Les ouvriers n'ont pas de machine à laver. C'est les premières. Donc, l'association va acheter une machine à laver et va la mettre au service des familles. Ce qui fait que la machine à laver, chaque demi-journée, changeait de famille. Et il fallait la transporter, ils avaient fabriqué un truc qui, une sorte de chariot pour passer d'une famille à l'autre, et la famille, la machine avait passé comme ça, de famille en famille, et elle revenait la semaine d'après. Je me rappelle la machine à laver, ma mère, parce que c'était, comme on habitait à l'étage, il fallait monter la machine et la redescendre toutes les fois. Il y avait également l'aspect des achats groupés. Pour réussir à avoir des prix, les militants passaient un accord avec des paysans. Et puis un jour, avec un camion, ils allaient chercher plusieurs tonnes de pommes de terre chez les paysans. Et les pommes de terre étaient distribuées aux familles qui les avaient commandées. Voilà un peu.
C'est important de souligner, c'est des aspects d'auto-organisation un peu, mais c'est aussi important de rappeler qu'il y a pas mal de gens, enfin moi j'en ai un peu connu au début des années 70, qui venaient de l'action catholique, etc., de la JOC, qu'on donnait beaucoup de personnes qui sont investies au départ dans la CFTC, mais après, en 1964, quand il y a eu la création de la CFDT, beaucoup se sont retrouvés dans la CFDT, et certains se sont radicalisés d'ailleurs après 68, hein. Il y a un certain nombre de leaders qui ont suivi la trajectoire de tes parents, quoi.
Oui. Alors, par rapport à ça, je pense 68, ça me rappelle. Mes parents, je disais qu'ils étaient aussi engagés au niveau chrétien, c'est-à-dire à l'ACO, Action Catholique Ouvrière. Et à ce moment-là, en 68, mon père travaillait à Creusot-Loire. Et il se trouvait que les délégués de Creusot-Loire pour mon père était à Force ouvrière. Il y avait un autre délégué qui était de la CFDT et un autre qui était de la CGT, mais ils étaient tous les trois dans le même groupe d'Action catholique ouvrière. Voilà. Alors les débats, c'était un peu houleux, les échanges pendant cette période de grève. Et enfant, alors là, j'étais déjà plus grand, mais enfant, je me rappelle les réunions, parce que les réunions se faisaient chez les uns ou chez les autres. Je me rappelle, étant petit, il fallait qu'on soit couché pour telle heure, parce que la réunion commençait à la maison, et il fallait qu'on soit plus là. Voilà.
Et, d'accord. Et alors, toi, tu es élevé dans ce milieu, et sur le plan professionnel, comment tu rentres dans la vie active?
Alors là, pour moi, c'est très compliqué. C'est très compliqué
pour deux choses. On va simplifier alors.
Oui, mais quand même expliquer le concept.
Oui, oui, vas-y, je t'en prie.
D'une part, je suis dyslexique. C'est-à-dire, la dyslexie, c'est quand même un handicap pour suivre des études, pour la lecture, pour... Et à 11 ans, je dis à mes parents que je veux devenir prêtre. C'est un coup de... Pour mes parents, qui étaient pourtant croyants, pour eux, ma fille d'ouvrier, elle n'est pas prêtre. Les prêtres, c'est des intellectuels, nous, on n'est pas... Et il va y avoir tout ce truc-là. Finalement, je vais quand même faire des études pour dans une école privée à Montbrison. Et là, je vais être confronté à plusieurs choses. D'une part, cette école privée à Montbrison, c'était la grande école privée où il y avait les fils d'avocats, où il y avait les fils de commerçants, où il y avait les gros exploitants agricoles de la plaine du Forêt. On avait aussi une population de paysans des montagnes, c'est-à-dire moins riches, mais pour qui les parents, pour leurs parents, c'était important qu'ils aient une formation catholique. Et on était très peu de fils d'ouvriers. Alors je peux pas dire que à cette époque, j'ai eu l'impression d'une humiliation de classe. Mais par contre, ce que j'ai eu, c'est une tension culturelle. Moi, j'étais du milieu populaire. Le week-end, le samedi, je faisais partie de l'équipe de joc. Et la démarche de la joc, c'est... on part de notre... De la vie qu'on mène, de les situations qu'on vit, et on essaie de les comprendre. C'est une démarche... on réfléchit à partir de ce qu'on vit et la réflexion qu'on a et l'apprentissage qu'on fait a pour but d'agir maintenant. Et je suis pendant toute la semaine dans une autre démarche. On est à l'école pour apprendre des choses qui nous intéressent ou qui ne nous intéressent pas. Il y en avait un certain nombre qui m'intéressaient, d'autres qui m'intéressaient moins, mais qui serviront plus tard où on se demande l'intérêt. De les apprendre, connaître Cicéron, quel intérêt ça peut avoir. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage culturel entre les deux qui était fort handicapant. Et pour moi, ça a été un élément révélateur de mon action future. Cette tension-là. Ce qui fait que ça dure, ça dure 3 ans à Montbrison, et au bout de 3 ans, je suis en fin de première. Je voulais toujours devenir prêtre. Et mes profs me proposent de dire, t'es toujours en tension à l'école, pendant une année, fais une année de transition, fais ce que tu veux, mais ça t'empêche pour mûrir un peu, et on verra éventuellement l'année d'après que tu puisses rentrer au grand séminaire. Les tensions, par exemple, je me rappelle, pendant que j'étais à l'école, Allende, qui est élu au Chili, c'est les socialistes et c'est... c'est pas le Parti communiste, c'est pas le... Donc, qui conciliait socialiste et liberté. Le samedi, quand j'étais là, j'ai une copine qui me fait cette remarque, qui t'a vu, au Chili, il y a un changement socialiste, et c'est pas... Moi, j'avais rien vu d'abord, je savais pas, et je me dis, mais tout ça, on t'en parle pas à l'école. Et pourtant, c'est quand même intéressant de comprendre comment les choses se jouent. C'est en 67, la guerre des 6 jours en Palestine. J'ai rien compris et j'étais dans un milieu qui visiblement disait c'est bien que Israël gagne contre les Palestiniens et moi je connaissais pas, j'avais pas de connaissances pour me faire une opinion, mais je me disais mais pourquoi tout ça on le travaille pas à l'école puisqu'on est à l'école pour apprendre. Et le but de l'apprentissage, c'est quand même de comprendre. Donc cette tension va devenir très forte. Et je quitte l'école à ce moment-là, en fin de première.
Et c'est, si j'ai bien retenu, hein, c'est en 1969 que tu es embauché comme manœuvre dans une entreprise qui s'appelle Béliard.
Bayard, voilà. Donc, je vais faire une année de transition. Et puis après, je décide de ne pas rentrer au grand séminaire, parce qu'à ce moment-là, se mettaient en place, ça a duré quelques années, des formations pour être prêtre, tout en continuant de travailler et en développant la pédagogie de la geôle, du voir juger agir, partir des difficultés de vie, partir de ce qu'on vivait. Et c'est là que, effectivement, je décide d'aller travailler. Je cherche du boulot et je commence par chez Bayard dans Cartenaille. Je continue la formation sous forme de week-end. Voilà. Et là, chez Bayard, je me confronte à la vie de l'usine. Alors là, c'est vraiment... Bayard, c'est manœuvrant. J'étais à une machine. Sur cette machine, on était trois. Il y avait le machiniste qui faisait les réglages. Et on était deux manœuvres. On faisait des rouleaux de carton. Donc je prenais la machine, jetais un carton, je le prenais avec ma main droite, je faisais deux pas, je le posais dans le séchoir, je faisais deux pas dans le sens inverse, je prenais le carton, et ça durait pendant une heure. Et puis au bout d'une heure, on inversait les rôles des manœuvres, c'était l'autre manœuvre qui venait faire ça, et moi j'étais derrière le séchoir à ce moment-là, et selon les grosseurs, on faisait des paquets de 10 tubes, 5 tubes, 25 tubes, et on attachait les tubes quand ils sortaient du séchoir. Donc je commence ce travail-là de manœuvre, et ça, à ce moment-là, je le note. Je suis toujours dans cette démarche de la geôle que je tenais, ce qu'on appelait le carnet de militants, où on note jour le jour les choses qu'on a fait, comment ça s'est passé, voilà.
Et ensuite, donc, tu es resté quelques mois, quatre mois d'après ton livre, dans cette entreprise, et ensuite, tu vas te syndiquer à la CGT, si j'ai bien compris, dans une autre entreprise.
Je vais me syndiquer. Là, dans cette entreprise, j'ai pris ma carte. L'entreprise, il n'y avait pas de section syndicale.
D'accord.
Donc, comme il n'y avait pas de section syndicale, et que moi, je voulais me syndiquer, j'ai été me syndiquer à la Bourse du Travail.
D'accord.
Et j'avais choisi, à ce moment, la Force ouvrière, parce que mon père était là. C'était, on peut pas dire que c'était un engagement... à la CGT, c'est l'année de transition où j'ai pris mon adhésion à la CGT. Mais là, j'étais dans un œuvre des villages d'enfants. C'était un boulot. Ils appelaient ça éducateur. Moi, je trouve que c'était plutôt pion. Mais là, il y avait une section syndicale. Donc, j'ai pris à la CGT parce que la section syndicale, c'était la CGT.
D'accord.
Et après, par contre... J'ai adhéré à la CFDT, mais là, c'était plus parce que ça correspondait plus à mon approche du syndicalisme. C'est en pratiquant qu'on va progressivement, et j'ai été adhérent à la CFDT pendant la plus grande partie de ma vie professionnelle, quoi.
D'accord. Alors bon, on ne peut pas tout... faire le détail de tout ton itinéraire que tu abordes dans le livre « Chemin et mémoire » qui est paru aux éditions du Petit Pavé. Ensuite, il y a un engagement, il y a la participation à des luttes de l'époque. Tu fais référence à Lee, Paul Arzac. Et tout ça, on peut le retrouver dans ton ouvrage. Ce que je propose, si tu en es d'accord, c'est qu'on fasse une... Parce qu'il faut qu'on parle aussi de Gaston Couté, sur lequel tu as écrit... Et comme le temps nous est un peu compté, je voudrais pas qu'on passe Gaston Couté à la trappe. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on puisse voir, si tu en es d'accord, qu'est-ce que tu en penses?
Parce qu'on
a prévu, si tu veux, d'aborder après le comment. La construction de ton livre sur Gaston Couté, comment tu es arrivé là. Donc, ce qu'on va peut-être essayer de faire maintenant, c'est tu peux dire deux ou trois mots, si tu veux, sur l'engagement que tu as eu après, dans les années 70, parce que ton livre est assez riche, et il fait un peu le tour d'horizon. Donc, je crois qu'on va... parce que si on veut vraiment... Oui, on va arrêter là. Et je renvoie à cet ouvrage, hein, je répète, Paul Masson, Chemin et mémoire, édition du Pipavé. Et là, on vous avez eu un peu l'introduction, les origines de Paul Masson, comment il se construit à travers l'éducation et l'apprentissage. Et ensuite, vous allez découvrir pas mal de mouvements et aussi comment il va devenir formateur à Culture et Liberté, etc., etc. Donc, nous allons faire une petite pause en écoutant, puisqu'on a dit que nous allons favoriser aujourd'hui des textes de Gaston Couté. Nous allons écouter les deux chemineux qui sont interprétés par Pierrot Noir, toujours dans le CD dont je vous ai parlé tout à l'heure.
El cabaretier au tournant du chemin, somme de chemineux qu'on choque à une gueule, puis chaude et puis sèche, quelle chaume des étoiles. El cabaretier au tournant du chemin, toi qu'a des futeuils, un cellier plein, va courir à boire, serre-nous un coup. Les gars, zavetis, les gars, zavetis des sous. El boulanger sur la place du bourg, somme de chemineux qu'on le vende qui commence, à leur chantouner, une drôle de romance. El boulanger sur la place du bourg, apporte-nous la miche que t'as au four, et passe ton couteau qu'on se coupe un bout. Les gars avaient-ils, les gars avaient-ils, les gars avaient-ils des sous. Et la garce belle dans le bourg plein de sous-l'eau, somme de chemineux qui passent leur nuitée, sans jamais recevoir la moindre bécotée. Et la garce belle dans le bourg plein de sous-l'eau, ouvre-nous tes bras et bourre-nous de béco, jusqu'à ce que tu vois qu'on en soit sous. Les gars avaient-ils, les gars avaient-ils, les gars avaient-ils les sous. Un monsieur le curé au temple du bon Dieu, somme de chemineux qui casse son autre pipe, mais qu'on va vécu dans les bons principes. Un monsieur le curé au temple du bon Dieu, vous lirait-il une prière ou deux avant qu'on nous jette dans le même trou. Les gars, savait-il des sous? Oh, ben non, monsieur le curé, non, on a point de sous. Ça, on a point de sous, non? C'est sûr. On est venu au R parce que... Enfin, c'est... Non, on a point de sous, vraiment, monsieur le curé. Bah... Enfin, on est des pauvres chemineux, quoi. On va de ferme en ferme. On cherche du travail. Pour tout vous dire, aujourd'hui, on n'a même pas bouffé, alors. Non. Mais on n'a pas de sous, monsieur le curé. Enfin, c'est drôle, tout de même. Partout ce qu'on va, c'est la même chanson. Hein? Une petite prière, c'est tout ce qu'on voulait, nous. Et les autres, là, ah, ça avait-il des sous? Ah, des pauvres miséreux comme nous. Ça avait-il des sous? Ça ressemble à quoi, ça, monsieur le curé, hein? Hein, franchement? Ça vous fait rire? Ça vous fait rire, peut-être? Hein? Ah, c'est ça. Les gars, ça avait-il des sous? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est marrant, peut-être. Les gars, ça avait-il des sous? Ça vous fait rire. C'est marrant, hein? Les gars, ça avait-il des sous, peut-être? C'est marrant. Ça vous fait rire. Les gars. Ah là là, les gars, ça avait-il des sous?
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni nationalité, à l'écoute de l'émission. Et pourtant, elle existe, cette littérature consacrée à la littérature prolétarienne. Alors nous sommes en liaison téléphonique avec Pomme Masson, qui est, on a choisi de vous présenter deux de ses ouvrages, le premier dont on vient de parler. Et maintenant, nous allons aborder ce texte, hein, Dans les pas de Gaston Couté, poète libertaire, 1890-1911. Alors, Paul, tu es en ligne ?
Oui.
Alors, donc, je vais commencer une première question. Comment se manifeste ton intérêt pour Gaston Couté ?
Première fois, c'est lié au disque de Gérard Pierron qui sort dans la fin des années 70 et où il y avait les Mangeurs de Terre. C'est une chanson qui a eu un certain succès à l'époque. Et le disque, ça s'appelait Gérard Pierron chante Gaston Couté. Puis deux ans après, il en a sorti un autre, La chanson du gars qui a mal tourné aussi, qui reprend des textes de Couté. Voilà, et puis, donc ça c'est dans les années 70, et puis dans les années 2000, il y a Gérard Cherbonnier, le directeur, le responsable du Petit Pavé, qui avait sorti mon nouveau livre, qui me reparle de Gaston Couté, et qui me parle que Gérard Pierron lui dit, mais tu fais, t'as une collection Dans les pas de, et qui parle des pays de Loire, et t'as jamais sorti quelque chose sur Couté. Et il me parle de ça, je lui dis, ah bon, Gaston Couté, c'est un chanteur, les textes m'avaient attiré, et il me dit, si tu travailles, et que tu proposes, je sors le livre. Et c'est comme ça que je m'y suis mis, et puis alors, après je suis rentré dans les textes, et puis ça a duré 3-4 ans quand même, pour que je le sorte.
Okay. Vas-y.
Alors,
tu dis que
je sais pas.
Oui, vas-y.
Écoutez, quand même, il y a plusieurs facettes. Ce qui m'a frappé chez lui, c'est la sensibilité et la révolte contre la société hypocrite. Et puis après, il y avait tout ce qui est l'homme de la terre, sa culture paysanne et sa culture paysanne complètement assumée. Il va écrire des textes en patois. Pourquoi en patois? Parce que c'est le langage des gens. C'est le langage de cette culture qui est la sienne. L'autre aspect que j'ai trouvé alors très poétique, sa manière de rendre à la fois la vie rurale, je pense des textes comme Le Petit Porcher, la parole des sans-voix. On ne peut pas parler que Couté était féministe, parce que ça serait un anachronisme, mais des chansons comme Les Gourgandines ou Les Petits Chats, il rend la situation qui est imposée aux femmes d'une manière excessivement riche. Toute la parole des sans-voix. J'ai entendu les deux chemineux là, que vous venez de passer, toute cette parole des sans-voix. Après, il y a sa carrière de chansonnier.
Ce qu'on peut peut-être résumer, c'est pour les auditeurs et les auditrices, c'est son parcours, justement, géographique, en quelque sorte.
Alors, son parcours géographique. Donc, Gaston Couté naît en 1880. À Main-sur-Loire, dans les Pays de Loire. Dès adolescent, il va écrire des poèmes, après, il va aller à Paris pour lire ses poèmes, pour dire ses poèmes, pas pour les lire, pour les dire dans les cabarets. Et il va faire une bonne dizaine d'années, il va être entre les deux lieux. C'est à Paris qu'il peut vivre. Il vit pas,
mal parce qu'il a peu de revenus, mais enfin, c'est là qu'il. Dans les cabarets, ils sont à Paris, ils sont pas à Main-sur-Loire. Et en même temps, c'est un gars de la terre qui est mal à Paris, mais qui peut pas rester dans son pays de Main-sur-Loire parce que la mentalité paysanne étroite, proche des intérêts financiers et tout ça, lui va pas. Et il est à cette époque de transition, dans le livre précédent, je fais allusion à mes grands-parents, il est dans cette période où les gens de la terre quittent la terre pour aller dans les usines, pour aller dans les villes où se trouvent les usines. Donc, lui, il va vivre ça pour lui, pour aller dans les cabarets. Et puis, là, il va se trouver plus, j'allais dire, confronté au milieu ouvrier qui s'organise. Et il va être très sensible aux idées anarchistes de l'époque. Enfin, pas aux idées anarchistes de l'époque, au grand thème des idées anarchistes, la notion de propriété. Il va remettre en cause des textes comme les Bornes. C'est très expressif. Les élections, l'amour libre, et puis tout ce qui est l'antimilitarisme. Et l'antimilitarisme fait qu'il va perdre des contrats dans les cabarets. Parce qu'on est juste, il meurt en 1911, et là on était en train de préparer la guerre de 14. Donc il va ses chansons, ses textes vont avoir des difficultés à passer, et il va être rejeté. Et il y a une partie de son énergie qu'il va faire pour accompagner les luttes ouvrières. Il y avait des manifs, il y avait des pas seulement des cabarets, mais à l'occasion des fêtes populaires, et ben lui, il allait chanter, il allait dire ses textes plus que chanter. C'est plutôt d'autres qui ont mis en musique ses textes, et une partie a été mise en musique à son époque, mais beaucoup de ces textes ont été mis en musique après.
Tu as choisi aussi dans ton livre de reproduire une grande partie des textes. Je crois que c'est important à souligner, parce que ça permet vraiment un accès, une lecture, même si tu dis que Gaston Couté, c'est un poète à entendre.
Oui, alors j'ai mis les textes. Mon livre n'avait pas, c'était pas une autobiographie, mon livre n'avait pas pour but de faire connaître Couté. Mon livre avait pour but de faire connaître les textes que je trouve à la fois très riches, très poétiques, et le titre que j'aurais mis au livre, si c'était moi qui avais choisi, c'est l'éditeur qui choisit, j'aurais mis Gaston Couté, un poète pour aujourd'hui, parce que ces textes ont du sens pour aujourd'hui. Je parlais ce qu'il dit sur les femmes, ce qu'il dit sur pour l'instant c'est pas les chemineux, mais les migrants maintenant vivent ce que vivent les chemineux à son époque. Les mangeurs d'air,
ah oui.
Les mangeurs d'air, c'était la chanson Les mangeurs d'air, comment les propriétaires s'approprient le terrain collectif. C'est parlant pour aujourd'hui. Donc, mon idée, c'était de faire connaître ces textes. Et le livre que j'ai écrit, c'est... Je n'ai pas regardé en nombre de pages, mais il y a autant de pages de Gaston Couté que de poches de Paul Masson. Mon but, c'était, voilà le texte de Couté, et voilà le contexte. Et voilà des éléments qui permettent de plus les comprendre et plus les apprécier.
D'ailleurs, il écrit à l'époque dans les journaux révolutionnaires, enfin ses textes sont publiés dans les journaux révolutionnaires avant sa mort. Hein.
Oui, oui, oui.
Il y a le Libertaire,
dans la dernière année sa vie, il va écrire pour la guerre sociale, une chanson par semaine. Alors, ces textes-là, la chanson par semaine, il y a des textes qu'il a fait pour ça qui sont magnifiques. Je pense les saisons, il y a quatre chansons, quatre textes sur les quatre saisons qui étaient qui sont magnifiques. Il y en a d'autres qui présentent plus d'intérêt au sens que c'était chansonnier pour la semaine. C'est comme si maintenant on écoutait la chronique d'un chansonnier qui parle de la vie politique ici. Il y a certains textes maintenant qui ne sont plus d'actualité. Mais la majorité de ces textes sont toujours d'actualité. Et la qualité politique.
Bien sûr. Alors, oui, vas-y, oui. Vas-y.
Alors après, c'est des textes, écoutez, écrits pour la scène. Donc, il écrit pour être entendu. C'est pas des textes à lire chez soi, tout seul, ou si on veut même les apprécier chez soi, tout seul, eh ben, il faut se mettre debout, et puis les lire à voix haute, pour les entendre. C'est des textes qui ont été travaillés pour être entendus. Et je m'en suis aperçu assez vite quand j'ai écrit le livre, ce qui fait qu'en parallèle de l'écriture du livre, et j'ai mis en place un groupe de personnes qui étaient intéressées pour travailler ça et qui se sont mis à apprendre ces textes, les chanter, de manière à ce qu'on soit en capacité de faire des conférences spectacles. C'est-à-dire, il y a un plan, c'est le plan de la conférence, qui est régulièrement coupé par des hommes, des femmes, qui chantent les textes de Couté, ou qui les disent, ou qui les rendent. Et ça, je pense que c'est la porte d'entrée première.
Et le fait que...
Par le texte, c'est compliqué, surtout si les textes sont en patois.
Oui, c'est ça que j'allais te poser comme question. C'est pas un obstacle, le fait que ça soit écrit en patois pour l'interprétation ou...
Alors, je pense que pour l'interprète, ça lui demande de le travailler, mais pour l'auditeur, c'est bien plus accessible d'entendre quelqu'un qui dit le texte que de le lire en patois. Après, il y a au niveau interprétation, parce que ça c'est notre idée à nous, c'est pas d'être puriste du patois du 19e siècle dans les Pays de Loire, c'est pas ça. Notre idée, c'est pas être puriste sur le est-ce que c'était bien comme ça qu'il le prononçait à ce moment-là, mais c'est de faire entendre le texte, ce qui fait que celui qui l'interprète, il va faire en sorte que les gens entendent bien ce que Couté voulait dire. Il y a dans l'interprétation, il y a ce travail-là de rendre le texte vivant.
Tu abordais, tu disais, Couté, c'est la voix des sans-voix.
Oui.
Tu resituais un peu ses origines paysannes. Son engagement par rapport à la société capitaliste, mais en même temps, c'est aussi une peinture de la vie à la campagne.
Ah oui.
Il y a aussi cet aspect.
De la vie à la campagne. On voit le petit porcher. Le petit porcher raconte les gosses de paysans, comment ils faisaient pour commencer leur vie. Ils allaient chez un gros paysan et puis ils allaient en élever de bonne heure pour aller chercher l'eau, ils étaient manœuvres. Mais en même temps, écoutez, y compris dans cette chanson, fait bien voir que ça va, c'est acceptable parce qu'il espère toujours devenir maître charretier, c'est-à-dire prendre la place de quand il aura était manœuvre, que ce soit à son tour, lui, qui fasse souffrir les autres. Il y a toute cette reconduction de la société que Couté restitue bien.
Ce qu'on peut peut-être signaler aussi, enfin en dehors de ton livre, qui est vraiment, moi je trouve que c'est une belle entrée en matière pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Couté, vraiment de lire, parce qu'il y a toutes les facettes. Maintenant, ce que tu tiens d'ailleurs à la fin, et c'est la preuve qu'il y avait une actualité aussi dans les années 70, juste après 68, c'est qu'il y avait la maison d'édition Le Vent du Chemin, ça dira quelque oui. chose peut-être aux plus anciens, qui a publié les œuvres complètes de Gaston Couté en 5 volumes, mais qui ne sont plus disponibles à ma connaissance aujourd'hui, et qu'on peut trouver, je crois, sur Internet. Tu as des infos là-dessus?
Alors, effectivement, sur Internet, si vous mettez Gaston Couté, il y a un site où tous les textes de Couté y sont. Il y a aussi, depuis, mais il n'y a pas tant longtemps que ça, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois que c'est les éditions libertaires qui ont ressorti l'ensemble des œuvres de Couté. Un livre qui est en 2 volumes, un livre entier, le plus important, où ils ont repris l'ensemble des textes, et un deuxième livre avec des illustrations qui est plutôt centré sur l'histoire de Gaston Couté, sa vie.
D'accord.
C'est, je n'ai pas sous les yeux, je le prends parce que c'est un livre aussi à citer, mais c'est pas un livre, il n'est pas du tout concurrent du mien. Le mien a pour but de faire connaître les œuvres de Couté et à des gens qui ne sont pas des spécialistes. C'est un livre de vulgarisation. Et tandis que, oui, c'est les éditions libertaires qui ont sorti Gaston Couté, tome 1, les œuvres complètes, et tome 2, c'est la vie de Gaston Couté.
D'accord, donc ça nous fait plusieurs entrées possibles pour découvrir ce poète. Alors, je propose, si tu en es d'accord, qu'on arrête là notre entretien. Je rappelle, hein, dans et pas de Gaston Couté, édition du Petit Pavé, je pense qu'on peut trouver à Publico. On peut aussi oui. trouver auprès de notre association, hein, puisqu'on le diffuse au niveau du club, ça, il suffit de nous écrire, et au niveau de la revue Fragments, dont on va en rendre compte dans le prochain numéro qui va sortir. Voilà, je propose, parce que le temps nous est quand même un petit peu compté, on peut... est-ce que tu as des choses qui te semblent importantes pour conclure?
Eh bien, tu parles les Publicos, on a été joué le spectacle, la conférence spectacle. C'est-à-dire que sur Paris même, éventuellement, ça serait possible d'aller refaire ces conférences, ce spectacle. Voilà, sinon j'ajouterais, donc il y a les 2 livres que j'ai écrits, mais au niveau de la démarche d'éducation populaire, je viens de sortir, il y a au mois de novembre, un 3e livre, l'éducation populaire, un phénix toujours renaissant, pour faire voir la démarche d'éducation populaire, comment elle s'est inscrite et qu'elle a toujours sa place ici.
Et
sinon,
C'est un aspect.
J'aurais plein de choses à dire, mais.
Voilà. Mais voilà. Ça sera peut-être l'occasion. On aura peut-être l'occasion de reprendre contact. Mais ce qui est, par rapport à l'éducation populaire, c'est aussi dans Chemin et Mémoire, il y a un certain nombre déjà de pistes qui sont données sur le travail que tu as fait, que ce soit dans la région stéphanoise ou ensuite dans la région minière de Lens où tu es maintenant, enfin d'Arras.
Voilà.
Voilà. Alors, ce que je propose, on va te dire au revoir. Et puis, nous allons écouter un titre des Chanteurs-Livreurs avec au chant Jean Aubel. Hein, c'est Poète, prends ton luth. Ou, écoutez bien, on cite aussi Gaston Couté.
Poète, prends ton luth et descends dans la rue. Poète, prends la luth, le combat continue. Sous les pavés, la rime, la plage est désertée. La poésie de frime, parade à l'Élysée. L'académie du blabla s'endort sur son passé. Poète, prends ta plume et écris pour demain. L'hier de l'amertume derrière est déjà loin. du futur, le soleil n'est pas encore levé. La lune fait merveille, ta nuit s'est éclairée. L'académie du blabla jaunit sur son papier. Le bon vieux temps c'était quand tu étais au banc. Aujourd'hui, il paraît que c'est plus comme avant. D'après ce qu'ils en disent, à côtoyer la dèche, t'aurais appris à vivre d'eau pure et d'amour fraîche. L'académie du blabla décerne ses mémoires. La rue c'est ton chez-toi, ouverte à tous les vents. Le ciel y joue le toit qui abrite à Clément. Jean Rictus, Étéiade, Villon, Gaston Couté. Demain, les camarades se feront écouter. L'académie du blabla frissonne sur sa culture. Tu as dû conserver de bons tours dans ta plume. Le verre va exploser en éclats de fortune. Le bonheur coulera au creux des caniveaux. Le printemps sacrera les enfants de Rimbaud. L'académie du blabla s'exile en amnésie.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni nationalité, à l'écoute de l'émission, et pourtant elle existe, cette littérature, consacrée à la littérature prolétarienne ou aux autres formes d'expression artistique, de création, qui viennent d'en bas. Donc nous avons passé un petit moment avec Paul Masson, à propos de ces deux ouvrages. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir à la fois Paul Masson et aussi son livre sur Gaston Couté. Maintenant, nous allons donner la parole à Michel, qui va nous parler de d'une exposition qui s'appelle La
Fabuloserie.
Peux-tu nous parler de ce lieu et nous fournir quelques repères quant à son histoire.
Donc là, on revient à ce qu'on avait dit dans une précédente émission sur ce qui concerne l'art brut. Et là, donc, c'est une exposition qui est à la Halle Saint-Pierre du 25 janvier, c'est passé, jusqu'au 25 août. Voilà, donc il y a largement le temps de la voir, et qui s'appelle La Fabuloserie. Donc on va refaire juste un petit point historique avant de rentrer vraiment dans l'exposition. Donc en fait, La Fabuloserie, qui s'appelait au tout départ l'atelier Jacob, a servi de relais entre le départ à Lausanne de la collection de l'art brut de Jean Dubuffet en 71, jusque dans les années 90, où une nouvelle génération de collectionneurs et de marchands s'est intéressée à l'art brut. Donc c'est eux qui ont servi de relais, et il y a eu des interactions très intéressantes avec Jean Dubuffet. Donc l'affiche de l'exposition actuelle à la Halle Saint-Pierre est une œuvre d'Alain Bourbonnais, qui est donc...
La Halle Saint-Pierre, c'est sur Paris, hein.
Oui, c'est au pied de Montmartre.
D'accord.
Voilà. C'est un très joli lieu, d'ailleurs, qui est tenu par une association, où il y a deux étages d'exposition, une bibliothèque qui est très très intéressante, enfin une librairie, et puis où on peut manger, boire un café, et voilà, c'est un lieu très convivial en même temps. Donc à l'époque de l'atelier Jacob, puis de la fabuloserie, il y a eu une interaction entre les deux collections, celle de l'art brut de Jean Dubuffet, et celle de l'art hors les normes, qui était représenté par M. Alain Bourbonnais. Voilà. Donc Jean Dubuffet donne ses adresses à Alain Bourbonnais, qui va acquérir des œuvres pour les exposer, et en retour, il offre des œuvres à Jean Dubuffet. Donc, ce qui permet de voir qu'il n'y avait pas de concurrence. Ce qui, voilà, à l'époque, c'est pas, ça ne les intéresse pas du tout. Mais par contre, ils ont collectionné de part et d'autre des choses absolument extraordinaires. Alors, si cette exposition a lieu aujourd'hui à la Halle Saint-Pierre, c'est parce que la fabuloserie a 40 ans. Du coup, c'est une date anniversaire et c'est l'occasion pour la Halle Saint-Pierre de célébrer la collection qu'Alain et Caroline Bourbonnais ont rassemblée avec une passion très très forte à partir de 72 à 1972 à l'atelier Jacob, puis à partir de 1983. Donc dans la, qui s'appelle la fabuloserie et qui se situe, alors écoutez bien parce que c'est un peu compliqué le nom, mais qui se situe parce que ça existe toujours à Dissy, Charny, Auray de Puisé dans l'Yonne. Voilà. C'est un domaine aménagé en une maison musée et un jardin habité avec beaucoup de sculptures et d'installations. Donc, à mon avis, pour les gens qui habitent là-bas, c'est vraiment un lieu à visiter. Et ça serait d'ailleurs bien si on avait des adhérents qui allaient et qui nous feraient un retour, parce que, bon, moi, je ne peux pas aller partout, quoi. Voilà. Mais peut-être que j'irai un jour. ou d'autres gens de l'association.
Il est possible qu'on sollicite des abonnés ou des...
Voilà. Des bah oui, pour nous faire des retours, voilà. Parce que là, on parle souvent de Paris, mais bon, là, par exemple, c'est un lieu extérieur à la région parisienne et ce sera intéressant d'avoir un retour peut-être par des gens qui habitent là-bas. Bon, à la croisée de l'art brut, de l'art naïf et de l'art populaire, la fabuloserie s'est également ouverte sur des cultures occidentales. L'art hors les normes de la fabuloserie n'a cessé d'accueillir les œuvres singulières de créateurs. Alors, ce sont des créateurs qui sont complètement dépourvus de soucis esthétiques et qui surtout ne se disent ni se ne pensent pas des professionnels de l'art. Alors, c'est vrai que l'art brut, Jean Dubuffet disait, c'est l'art des petites choses. C'est-à-dire, c'est un art qui est fait à partir de bouts de bois, de bouchons de bouteilles, de bouts de tissu, de vis, de clous, de coquilles d'œufs, de voilà. Et c'est un art qui est fait par des gens tout à fait du commun comme nous, voilà, des gens ordinaires, qui en fait ont un talent artistique, on va dire, et créatif surtout, et qui à partir de choses ramassées dans leur environnement vont créer des choses extraordinaires. Il y a des sculptures, il y a des peintures, il y a des statues qui sont vraiment et qui sont faites avec vraiment quasiment rien du tout, quoi. Donc la fabuloserie, elle est placée sous le signe du fabuleux, du merveilleux et du fantastique. Alors c'est vrai qu'on voit des choses assez extraordinaires qu'on voit nulle part ailleurs. Des poupées articulées, des petits nains, des grands paysages avec des lacs et des... Enfin, on en prend plein les yeux, quoi, hein, en fait, voilà. Et ça nous provoque effectivement beaucoup d'émerveillement. Et à la fabuloserie, donc tout ça se prolonge dans le parc. Où les bâtisseurs, tous ces artistes, ont créé des installations, en fait. Voilà. Donc, je vous recommande vraiment cette exposition à la Halle Saint-Pierre, et surtout, en allant au départ de l'exposition, de bien regarder le film, alors, qui dure à peu près une heure, hein, c'est un peu long, mais où on voit surtout les créateurs à l'œuvre. C'est-à-dire que toutes les œuvres qu'on va voir après, dans les deux étages de l'exposition, on voit beaucoup de créateurs qui nous expliquent leur art. Voilà. Et je me souviens particulièrement d'un artiste qui, en fait, travaille avec tous les détritus qu'il ramasse sur le bord de la Seine et sous les ponts, par exemple. Voilà. Et il fait des choses absolument extraordinaires.
Pour préciser, je crois qu'à un moment, tu évoquais une interaction entre ce lieu, Dubuffet et Ragon.
Oui, alors Michel Ragon. Alors, je vais continuer sur la famille Bourbonnais, mais rapidement. D'accord. Donc, Alain et Caroline Bourbonnais. Alain Bourbonnais, surtout, est né en 1925 et décédé en 1988. C'était un architecte. Il rêvait d'un art architecture et il a reconstruit le théâtre de Caen. Et je crois que ça serait intéressant d'aller voir parce qu'il a essayé de faire vraiment un lieu de théâtre très différent. Et il sculptait aussi, et entre autres, il a sculpté toute une tribu de statues qu'il appelle ces turbulents et qui sont justement exposés à la fabuloserie. Voilà. Et Michel Ragon était l'ami de la famille et donc les a suivis et était avec eux beaucoup. Par contre, pour l'instant, on n'a pas d'autres renseignements. C'est quelque chose en avançant, on trouvera certainement. Mais il était très proche d'eux et il a pu observer que, en fait, Alain et Caroline Bourbonnais ont toujours respecté leur créateur, ont toujours payer les œuvres qu'il leur achetait un prix tout à fait correct, alors que en fait ces gens comme toi et moi on n'est pas du tout connus et qu'en gros on vend rien sur le marché de l'art, mais ils avaient un grand respect des créateurs et en fait ils ont tenu très méticuleusement tous les livres de comptes que Michel Ragon a étudié, ça par contre je sais, et il était assez épaté du respect que d'ailleurs eux mais aussi Jean Dubuffet ont témoigné à tous ces créateurs. Voilà.
C'est un aspect peut-être la relation Ragon avec eux qui peut être intéressant à creuser.
Oui,
puisque l'an prochain, on va avoir
le
centenaire, ça peut être...
Voilà.
Je fais une parenthèse, puisque on va faire un numéro spécial de numéro 8, pas celui qui arrive, mais sur Ragon.
Oui.
Donc ça peut être intéressant aussi de montrer différentes facettes de son action.
De son action, voilà pour la fabuloserie. Je redis vraiment d'aller à la rencontre.
Donc c'est à la Halle Saint-Pierre.
C'est à la Halle Saint-Pierre, d'accord. Donc jusqu'au 25 août.
D'accord.
Voilà. Donc il faut vraiment aller à la rencontre de ces gens parce que c'est vraiment du très bel art en fait. Voilà, tout simplement, et que ça fait. C'est vrai que c'est merveilleux et que ça fait beaucoup de bien de voir. Alors sinon, je vais faire juste un petit aparté, longtemps. Sur Lausanne et la collection d'art brut.
Donc, qu'on avait évoqué à la dernière
émission. À la dernière émission.
Et depuis, tu as voyagé.
Et depuis, j'ai voyagé. Donc, je suis allée voir cette collection de l'art brut à Lausanne parce que vraiment, c'était trop tentant et que j'ai pas pu y résister. Et je me félicite d'avoir fait ça. Parce que là aussi, c'est une magnifique maison particulière dans un quartier de Lausanne et où ils font toute cette exposition d'art brut, une exposition. Alors, il y a des expositions permanentes sur trois étages. C'est un lieu où on est magnifiquement accueilli par des gens... très simple, comme toi et moi et nous, sans chichi. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans un musée, ça n'a rien à voir, en fait. Et on est plongé dans un espace noir. Tous les murs sont noirs ou gris très foncés. Et toutes les œuvres sont éclairées et en relief. Et c'est vraiment... La visite est vraiment assez extraordinaire, en fait, de découverte. C'est impressionnant. Enfin, je veux dire, ça déborde de vie. Voilà, on ressort, on a l'impression d'être face à un art qui... ça dégouline partout, quoi. Ça vit, ça pulse, ça envoie plein de choses. Et on se dit, mais c'est incroyable par rapport à certains musées où tout est peut-être très figé. Et voilà. Là, on est vraiment dans des espaces où tout dégouline, quoi. On se sent pris dans un mouvement... et donc, à côté de chaque œuvre, on a le portrait du créateur avec non seulement son nom, mais son histoire. Donc, pour beaucoup, c'était des gens, effectivement, ouvriers, ruraux, femmes à la maison, qui passaient leur temps à créer, à s'amuser. En fait, ils s'amusaient, pour eux, ils s'amusaient. Ils n'ont jamais montré leurs œuvres à personne, à part Jean Dubuffet, qui les a collectionnées et qui les a mis dans cet espace. Ils sont complètement ignorés, personne ne les connaît. Mais tant mieux, je veux dire, tant mieux, ce n'était pas l'objectif. En plus, ils n'avaient aucune envie d'être connus. Mais il nous laisse un patrimoine extraordinaire. C'est surtout ça, je pense qu'il faut. C'est surtout ça, surtout qu'il faut préserver, parce que c'est à nous, quoi. Ça vient de nous et c'est à nous. Et il faut vraiment le préserver. Et c'est vraiment superbe, quoi. Donc, j'ai rencontré non seulement cette collection, ça a été un grand choc, vraiment un grand choc, et un grand voyage, en fait. Mais surtout, j'ai pu donc être en relation avec l'équipe de la collection d'art brut, et peut-être, on va essayer de voir si on peut avoir des relations un peu plus suivies pour qu'ils nous parlent beaucoup mieux que moi de leur exposition. Alors, pendant que j'y suis allée, il y avait une exposition temporaire qui s'appelle « Photo machinée ». Et en fait, parce que la collection d'art brut continue à collectionner, je veux dire, c'est pas arrêté, c'est pas un truc qui est figé avec Jean Dubuffet et qui reste comme ça, pas du tout. Ils continuent à collectionner, donc ils sont en relation avec plein de créateurs, et j'ai pu visiter donc cette exposition de qui s'appelle Photo machinée, et qui est en fait l'œuvre d'un... c'est un mathématicien et un statisticien, donc ça n'a strictement rien à voir avec l'art tel qu'on l'entend. Et ce monsieur, donc, c'est Antoine Gentil, qui a organisé des collections, non seulement à la collection d'art brut de Lausanne, mais aussi à la Fabuloserie, et qui a passé son temps à collectionner et à repérer toutes les photos qui avaient pu être détournées de leur nature première, et qui en fait a constitué une fantastique collection de photos ordinaires, de familles, de gens, de vraiment très très simples. Et à travers tout ça, il y a une histoire qui se dégage, entre autres une histoire populaire très très intéressante. Et ce monsieur est un Parisien, donc j'en parle parce que en fait il a ouvert au boulevard de Roche-Chouart à Paris, au 57 bis, un lieu où justement il a rassemblé 1 million de photographies anonymes en faisant tous les brocanteurs et autres. Et depuis, il vend dans ce lieu aussi, il expose des vêtements d'occasion et des œuvres d'art. Et je pense que c'est quelqu'un à aller voir, mais encore à Paris, quoi. Voilà.
Eh bien, je crois que là, bon, on a évoqué rapidement le musée de Lausanne. En fait, ça fait deux raisons d'aller, pour ceux qui seraient dans le coin,
d'aller
au CIRA, puisqu'on rappelle, il y a un centre d'archives anarchistes à Lausanne, et l'occasion de faire une pierre de coups quand on a le temps.
C'est ça.
Je sais que tu ne l'as pas eu.
Non, je n'ai pas eu le temps, parce que je me suis fait happer par l'exposition et par l'équipe. Voilà.
Donc, pour le petit moment qui nous reste, je vais vous parler de quelques ouvrages, certains qu'on diffuse au niveau de notre association et d'autres pas, mais qui nous semblent intéressants d'aborder. Le premier, c'est aux éditions Kierio, un double ouvrage, on va dire. C'est un essai de Marcel Martinet qui s'appelle « Le chef contre l'homme » et qui est suivi par « Le refus de la hiérarchie » de Philippe Geneste. Alors, Marcel Martinet, c'est un texte qui a été écrit, qui est paru en janvier 1934 dans la revue Esprit. Hein. La revue Esprit, d'ailleurs, a accueilli aussi les cahiers de la littérature prolétarienne de Poulaille pour 4 numéros. Et en fait, Le chef contre l'homme, c'est un peu une analyse... je rappelle, hein, en 1934, donc il n'y a pas encore tous les éléments sur la montée du nazisme, mais il y en a déjà pas mal. Hein. Le livre de Daniel Guérin sur ses enquêtes en Allemagne ne sera publié qu'en 36, 35, 36. Donc c'est une analyse un peu... déjà, on se réjouit de la nouvelle publication de ce texte de Marcel Martinet, qui a été en permanence... c'est lui qui a été théorisé, utilisé la première fois le terme de culture prolétarienne, d'art prolétarien, en 1913, avant de publier en 1935 Culture prolétarienne aux éditions de la librairie du travail. Donc il y a une proximité entre Martinet, qu'on a retrouvé aux éditions Reader, hein, et dans les années 20, et qu'on va retrouver toute sa vie, il meurt en 44, aux côtés des syndicalistes révolutionnaires. Donc déjà, on rappelle, hein, c'est un poète, c'est un écrivain, poète qui écrit Les Temps Maudits, hein, contre la guerre en 1914-1918. Et bon, qui avait travaillé comme... C'est quelqu'un qui a mis en place le refus de parvenir. Hein. Il avait la possibilité de devenir un professeur. Il a refusé de se présenter à l'agrégation. Et là, en fait, l'objet de son texte, c'est pas un texte très très long, mais c'est essayer de comprendre les conditions de l'accession au pouvoir des mouvements fascistes. Et ça, c'est intéressant. Il essaye de voir... en fait, comment ça se produit et comment une partie des personnes et ensuite des masses peuvent avoir recours à un sauveur suprême. Et, on va dire, dans la foulée de cette approche, il y a le texte de Philippe Jeunesse, qui est le refus de la hiérarchie et qui démonte un peu, moi je dis c'est de manière presque chirurgicale, comment il y a des mécanismes d'abandon de sa volonté d'agir. Comment on délègue cette capacité d'autonomie, on la délègue pour se soumettre en fait à une autorité qui est censée être supérieure. Et ça, c'est intéressant dans le processus, il le met aussi dans le processus d'un système autoritaire. Bon, il explique d'ailleurs aussi que l'éducation est d'ailleurs le vecteur essentiel, ce sont ces termes, hein, de cette dépossession en fait du pouvoir de l'individu pour le donner à un chef, à un parti, à un ordre futur. Donc c'est toutes les questions de l'aliénation qui sont oubliées, donc je recommande. Alors dans le numéro 7, alors je rappelle, hein, nous faisons... La revue qui s'appelle Fragments, revue de littérature prolétarienne, et nous allons publier courant juin notre 7e numéro, hein, pareil, plus de 100 pages, et on est content de la diffusion qui se fait, du nombre d'abonnés, et on revient de manière plus longue sur cet ouvrage, hein, que vraiment on conseille. Il y a un autre, là je serai très rapide, on aura l'occasion d'y revenir, c'est le mouvement Bûcheron d'Amédée Dunois, aussi syndicaliste, etc., qui a eu différentes formes d'engagement, qui est aussi suivi d'un autre texte de Émile Guillaumin, ça s'appelle La peine aux chaumières, et ça, c'est publié aux éditions Plein Champ. Donc, on y reviendra, parce que c'est très intéressant, parce que ça montre comment ça a été publié initialement par les Cahiers Nivernais, comment, avant 14, il y a eu l'organisation syndicale dans un milieu qu'on évoque rarement, celui des bûcherons. Et donc, c'est à la fois intéressant sur le plan d'enquête, en fait, c'est pratiquement une enquête, puisqu'on aborde les fédérations locales, syndicales, et en même temps, la découverte des bourses du travail. D'ailleurs, bon, c'est une anecdote, mais quand je l'ai lu, j'ai découvert que la Bourse du Travail de Bourges, à l'époque, hein, avant 14, disposait d'un groupe cycliste de propagande. C'est-à-dire qu'ils étaient... bon,
on va faire ça, un fragment.
C'est la petite chose. Moi, je ne suis pas très bon en vélo pour courir.
On va faire ça.
Et le deuxième, c'est La peine aux chaumières, hein, qui sont des textes, des portraits d'Émile Guillaumin, dont je pense qu'on consacrera une émission un peu à parler de ce paysan écrivain, hein, qui est intéressant à découvrir, à présenter. Bon, il y a quelques bouquins qu'on peut trouver, comme La vie d'un simple, mais là, ça n'avait pas été réédité, La peine aux chaumières, et je rappelle, c'est les éditions Plein Champ. Alors, j'ai encore 5 petites minutes pour vous signaler, alors pour les abonnés ou les lecteurs de Fragments, c'est un nom qui leur dira quelque chose, c'est Gérard Lemaire. On lui a consacré un dossier, hein. Il a écrit 10 000 poèmes. Je rappelle, 10 000 poèmes. Il se définissait comme un poète prolétarien. Donc ce livre, on peut me contacter C'est aux éditions du Contentieux, et on peut contacter auprès de notre association. Mais là, il vient de publier, je pense qu'on y reviendra un peu plus longuement, aux éditions Unicité, ça s'appelle « Pourquoi écrire ?», suivi de « Le long balbutiement ». Donc Gérard Lemaire, qui est décédé en 2016, et son épouse, Marie-Joseph Lemaire, fait un travail assez extraordinaire. Elle a un site aussi sur Mediapart où elle publie régulièrement, enfin un espace qui lui est réservé, et elle publie au quotidien des textes, et c'est de la poésie pure, mais aussi de la poésie très engagée. Vraiment, c'est... Moi, ça a été un peu vraiment un choc de me découvrir. Et bon, pour ma petite histoire, en 1997, il avait écrit un petit texte dans Combat syndicaliste, le journal de la CNT. Voilà, ça c'est... et enfin, le dernier, là, bon, je pense que là, il faudrait vraiment y revenir. C'est... je vais essayer de voir avec l'auteur, enfin, les éditions de la Ressouvenance. C'est un texte qui s'appelle « Les poèmes indésirables ». En fait, le libertaire, c'est sur Armand Robin, et toute une défense de Armand Robin, condamné une fois de plus, hein, quelqu'un qui s'est opposé, rappelons-le, au stalinisme, hein, qui avait été matraqué, qui est vraiment anti-autoritaire, et il y a un très beau bouquin, mais bon, il nous fera un petit moment pour, j'espère qu'on pourra l'avoir ou par écrit dans la revue Fragments, ou au cours d'une prochaine émission. Notre prochaine émission sera consacrée, enfin, à François Lebert, on vous en parle. Hein. Mmh. On a édité, là c'est l'autre aspect de notre association, on a maintenant un secteur édition, et au cœur de notre premier ouvrage qu'on a publié, c'est le livre publié en juillet, mais de fait diffusé en septembre, « Lignes de front », qui sont des poèmes, des textes de François Lebert, ouvrier métallurgiste à Vendôme.
Et des dessins.
Et, mais j'allais dire, des ah textes ouais. et des dessins,
ah oui, bien sûr.
Puisqu'il maniait les deux, et vraiment, c'est... Il y a vraiment des commentaires assez élogieux de gens qu'on ne connaissait pas, qui nous ont envoyé, suite à l'achat, à la découverte du livre, en disant il aurait pu être affichiste, quoi. Il y a une force dans ses dessins, puis il y a une réflexion, c'est l'itinéraire, et c'est l'exemple concret qui montre que la littérature ouvrière, c'est quelque chose qui se conjugue au présent. Donc on aura François, ça sera une émission enregistrée, mais qu'on va essayer un peu de cuisiner. Oui, vas-y, Michel.
Oui, non, je voulais dire, moi quand je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était l'illustration parfaite. Du fait que la créativité, c'est pas ou la littérature ou la peinture ou le dessin, c'est tout en même temps. C'est-à-dire que lui, on voit bien sa créativité, c'était autant par les mots que par le dessin, que par les couleurs. Et c'est vrai que, par exemple, au cours moi de mes recherches, je me suis rendu compte que le mot grec ancien graphène veut dire aussi bien peindre que écrire. C'est-à-dire que c'est on raconte des histoires aussi par la peinture et par le dessin, autant que par le texte. Donc il n'y a pas de scission entre tout ça, si ce n'est après des académies. Mais ici on n'est pas fait pour faire des académies en fait.
Mais hein, il y a aussi voilà. une bonne synthèse entre les deux.
C'est une synthèse parfaite entre les deux.
Très
complémentaire. Voilà, c'est ça.
Enfin, le dernier auteur dont nous avons parlé. C'est Jean-Michel Beaugiroux, dont on a présenté aussi son travail dans la revue Fragments, et qui vient de sortir un fascicule de poésie qui s'appelle Le vin, pas celui qu'on boit, hein, mais même si on n'a rien contre, mais Le vin, L-E-V-A-I-N, et qui est paru aux éditions La Petite Hélène Édition. Voilà. Alors nous allons nous quitter pour aujourd'hui, nous allons dire au revoir aux auditeurs et aux auditrices de Radio Libertaire. Radio 89.4, sans Dieu, ni maître, ni nationalité. Et nous allons nous quitter en écoutant un texte, encore une fois, de Gaston Couté, Le chant de Navio.
Matin, quand j'ai cassé la croûte, je pouille ma blouse, je prends mon adhésio. Et mon bézouet, puis en route, je m'en vais comme un pour Sotosio. Entrer dans ma vieille patte qui rechigne, à force d'aller par Montparvio, je m'en vais piocher mon quartier de vigne, qui est à côté du champ de Navio. Et là-bas, tandis que je m'esquinte, à racler l'herbe autour des sas, que je sue, que je souffre, que j'in, que je quinte pour gagner le bout de pain que je n'ai pas. Je vois souvent passer dans la semaine des tas de gens qui braillent comme des vieux. C'est un pauvre bourre que l'on emmène pour l'entarrer dans le champ de Navio. J'en ai-t-il vu depuis tant que je pioche? J'en ai-t-il vu de ces entarbans? J'ai vu passer ce du petit mioche et ce des seuses 80 ans. J'ai vu passer ce de la pauvre fille et ce des pogs aux bourgeoisiaux et ce des seuses toute ma famille qui dort master dans le champ de Navio. Et terre tout le paysan comme elle est riche. Elle riche tout court, mais le pauvre paysan, on les a mis à plat sur le friche, c'est plus que du fumier à présent. Du bon fumier qu'engraisse ma terre et rend meilleur les vins nouveaux. Place que c'est que d'être propriétaire d'une vigne en compte et le champ de Navio. Après tout, faut pas tant que je blague, ça m'arrivera, y tout ça. La vie est un arbre qu'on élague et je serai la branche que la mort coupera. Je passerai un biosphère calme et digne, tandis que chanteront les petits moignons. Et quand qu'on me trouvera dans ma vigne, on m'emportera dans le champ de Navio. On m'emportera dans le champ de Navio.
Et voilà, chères auditrices et chers auditeurs, et pourtant elle existe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le troisième jeudi du mois prochain pour l'émission. Et nous allons maintenant vous diffuser et faire place à l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste. Et nous vous donnons rendez-vous donc le troisième jeudi. Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Voilà, nous vous remercions de votre attention. Et voilà, maintenant, c'est Civis Pacem de l'Union Pacifiste. Bonne écoute et bonne émission.